Re-bienvenue au Voyeur de vue, le meilleur podcast de cinéma de cette belle province du Québec. Pour parler des vues devant l'éternel, il y a moi-même, Yannick Belzile.
Et moi, Alex Rose.
Alex, on a eu des petites nouvelles de fun au sujet des Voyeurs de vue, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, bien sûr le vif des vues. C'est qu'on va se promener.
Ben oui, on va être en mouvement.
En
pour la première fois, on va être devant public aussi pour la première fois. Mm-hmm. On est invité à la 40e édition du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, plus spécifiquement à Rouyn. Là où je ne suis jamais allé, par ailleurs, c'est la première fois que je vais être en Abitibi de toute ma vie.
Oh là là!
Alors, il y a ça, oui, donc on va faire partie du festival. On était invité pour aller faire les Voyeurs de vue live. On ne sait pas encore exactement de quoi ça va avoir l'air. Ça va sans doute être un entretien avec un invité. Et on ne sait pas encore exactement quel invité ce sera. Il mm-hmm. Y a des potentiels intéressants d'invités. Là. C'est juste de s'organiser.
Ben oui, de trouver c'est qui et seront-ils ou elles disponibles. Mais on a vraiment hâte de sortir de la Grande Montréal pour aller voir des vues, aller à un festival, mm-hmm. Voir des gens mm-hmm. et aller leur parler. On a vraiment hâte. C'est super cool. Et, mm-hmm. Mais en même temps, c'était aussi inévitable vu qu'on est le plus grand podcast de cinéma de la province.
C'est ça, voilà, inévitable.
Inévitable. Alors,
si j'ai bien compris, il va y avoir d'autres podcasts de cinéma également.
Oui, ben et, regarde.
On ne sait pas lesquels, donc...
Non, ben regarde, moi j'amène...
Pour le moment, on reste les meilleurs.
On reste les meilleurs, puis tu sais, on amène nos gants loadés et nos poings américains, histoire que si quelqu'un veut essayer de régler des querelles de podcast hors Montréal, voilà. Sur mon home turf, dans mon hood, l'Abitibi, crime. Le fils du Nord ne sera pas vaincu en terre promise. Mais bon, trêve de choses. À chaque semaine, les Voyeurs de vue, c'est une émission où on parle des films, on parle de tous les films qu'on a vus pendant la semaine, mais on parle aussi d'un film, un programme principal qui est lié à celui de la semaine précédente par le biais du réalisateur, du scénariste ou d'un acteur ou d'une actrice. Et la semaine passée, on a vu Henry, Portrait of a Serial Killer, qui met en vedette Michael Rooker, qui est aussi en vedette dans le film de cette semaine, Slither, de James Gunn, qui, je crois, est son premier comme gros film mainstream, hors du système de trauma. Mais c'est approprié qu'on regarde Slither, parce qu'on est bel et bien dans le mois de choctobre, ce mm-hmm. qui se reflète dans dans ce qu'on visionne cette semaine. Alex, je t'invite à commencer. Qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Je pense qu'on devrait commencer les trailers.
Parlons des trailers. Ben, il y a eu des trailers cette semaine. Là, ça finit plus de ne pas finir, là, les trailers. Mm-hmm. Même si, comme à toutes les fois que je vais au cinéma, tout ce que je vois, c'est House of Gucci 40 fois, genre. Quand je suis allé voir No Time to Die à Toronto, j'ai vu House of Gucci, là. Tu sais, je pense que ça a jamé, ou je ne sais pas trop. Là, le pre-show était en loop, là. J'ai dû voir House of Gucci 6 fois. Donc là, je le sais par cœur.
Regarde, quand le trailer a sorti pour la première fois, je pense qu'on était tous « Oh, Jared Leto ». Mais moi aussi, multiples fois que je vois le trailer de House of Gucci au cinéma, là, il est en train de me gagner. À force de le voir dans le trailer, là, il dit « Real firecracker ». Ouais, OK. Finalement, ça fait du sens pour moi. Ça fait du sens.
Ouais, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, est-ce que ça se rattache un peu à un autre des autres trailers qu'on va discuter, mais est-ce que c'est nécessaire d'engager Jared Leto pour jouer un petit monsieur rondouillet qui perd ses cheveux avec une moustache qui ressemble, on va se le dire, plus à Mario que Bob Hoskins ressemblait à Mario dans le film de Mario? Je pense que c'est pas nécessaire. Mais est-ce que je vais l'accepter? Absolument. Mm-hmm. Je l'accepte.
On le prend, c'est certain.
C'est ça.
Fait que oui, il y a eu un gros... Ben, il y a plusieurs trailers qui sont sortis ce week-end parce que c'était le Fandom de DC. Un événement en ligne organisé par Warner Brothers pour mousser un peu ce qui se passe avec toutes leurs propriétés sur différentes plateformes. Comme dans les comics, il y a beaucoup de Batman. Et surtout, il y a eu le trailer, un nouveau trailer du prochain film de Matt Reeves, qui est écrit et réalisé par Matt Reeves, qui est de Batman. Qui met en vedette, bien sûr, Robert Pattinson dans le rôle de Batman, de Bruce Wayne. On a Zoe Kravitz qui va être Catwoman. On a un Colin Farrell méconnaissable dans le rôle du pingouin. Et bien sûr, le number one freak lui-même, Paul Dano, qui était parti depuis trop longtemps de nos écrans à jouer un weirdo vers de terre. Ouais. Et qui semble être le retour dans le rôle du Riddler, mais d'une version très... Son of Sam, Zodiac Killer.
Exact. Il a l'air même un peu ripped, si j'ai bien compris, dans le trailer, ce qui est une chose que j'aurais jamais pensé dire de Paul Dano avant.
Mm-hmm.
Mais écoute, tout ça peut. Hein?
Tout ça peut. Le trailer, moi, je l'ai beaucoup aimé. T'sais, on voit, on se fait comme offrir une version très... David Fincher-esque 7 mm-hmm. de Gotham City. Très silhouette, néo-noir, souvent éclairé par une seule couleur. Il y a même comme un bel hommage à Batman Animated que à chaque fois tu vois un ciel le jour, Noé qui est bleu. Il est soit jaune, orange, sale ou rouge. Ben, bref, moi je ne pensais pas avoir comme la capacité de me craquer pour un autre Batman live action. Je serais comme, OK, ben, je vais aller le voir. Là, c'est correct.
Ouais.
Ce que Matt Reeves a raconté sur sa version de son Batman, que lui veut que ce soit c'est comme un jeune Batman, puis que ce soit très film noir, détective, ça je trouve ça vraiment cool. Mais ce qui a vraiment fait la différence en trailer, c'est le thème, l'apparition du thème de Michael Giacchino, de son thème de Batman, que je trouve que j'ai trouvé comme, tu sais, ça a vraiment comme soulevé tout le trailer pour moi. Puis j'aime beaucoup Michael Giacchino, mais tu sais, il est tellement prolifique que des fois il peut sortir une couple de soundtrack de suite qui sont comme un peu quasiment du papier peint.
Ça arrive souvent avec des compositeurs. Puis tu sais, moi je te dirais que c'est la chose que je remarque peut-être le moins là, dans le cinéma, c'est le original score, mais ça arrive souvent, tu sais, que ils vont se répéter parce qu'à un moment donné, tu sais, aussi, il faut comprendre que ce n'est pas des affaires qui gossent sur leur ordi. Là, ça prend un orchestre de 70 personnes pour faire ça. Fait que à un moment donné, c'est comme, je comprends. Là, moi aussi, moi, quand je fais de la rédaction, je décris des kayaks, là, des fois, je réutilise un peu les bouts que j'ai déjà utilisés. Là. Tu sais, pourquoi me casser le basic?
C'est ça. À un moment donné, il faut que le basic reste intact. Mais c'est ça, ce thème-là, je le trouve vraiment cool. Et puis, je suis hype, j'ai hâte de le voir. Puis, j'ai même revisionné le trailer tout de même beaucoup de fois depuis samedi, ce qui est une affaire que je fais pratiquement plus. Tu sais, il y a une époque où quand il y avait un nouveau trailer d'un film de super-héros ou d'un film qui allait vraiment me craquer, j'étais comme, oh yes, je le réécoute plein de fois. Puis ça, je l'ai fait avec ce film-là, avec ce trailer-là, parce que c'est surtout la musique qui m'a eu, mais... c'est le fun d'être excité par une affaire de grosse franchise que même si j'aime ces films-là, c'est plus difficile pour moi d'être réellement comme enthousiasmé maintenant par ça. Fait que c'est le fun que c'est encore possible. T'sais.
Ouais, moi je te dirais, j'avais peut-être la version Alex de toi, là, c'est-à-dire je vais devoir regarder le nouveau Batman, peu importe, fac. Ça vaut-tu la peine que j'anticipe ou que je sois réticent? Mais là, quand j'ai vu le trailer, je pense que c'est pas tellement différent. C'est pas fondamentalement différent de ce qu'on a déjà vu de Batman. Mais ça a l'air bien quand même. C'est sûr que c'est je pense que juste rendre quelque chose dark, c'est plus assez. Là. C'est pas assez un bon pitch. Là. Fait que, ça va rester à voir, mais je trouvais quand même que ça avait l'air plutôt intéressant. Puis j'ai l'impression, en basant sur le trailer, qu'il n'y aura pas de gros bébites en CGI à la fin du film.
Non, on dirait pas.
Et donc, ça m'excite beaucoup.
Ouais, que quand le climax devient essentiellement évite les affaires pour aller peser sur le piton quelque part. T'es comme,
non, ça prend la boîte. Elle est où la boîte? Mm-hmm. Dans une autre dimension. Il faut que tu spins super vite pour aller chercher dans l'autre dimension.
Et c'est ça. Fait qu'il y a aussi un trailer pour The Flash, mais que le clou de ce trailer semble essentiellement que vous vous crissez un peu de Ezra Miller, fait qu'il va aller voir le Batman de Michael Keaton, un personnage que vous aimez et dont vous vous ennuyez.
Mm-hmm.
Mais aussi, il y a eu un nouveau trailer qui est sorti aujourd'hui qui est le film, le prochain film d'Aaron Sorkin. C'est Being the Ricardos, qui est un film qui parle de la vie de Lucille Ball et de Desi Arnaz, qui est son mari. Puis il était, bien sûr, Lucille Ball qui faisait le sitcom I Love Lucy, qui est un des grands comme sitcom totémiques nord-américains qui a fondé plein de codes, des affaires comme ça. Et ça parle de... Apparemment que ça suit comme... Ça les suit pendant une semaine de leur vie alors qu'ils répètent pour faire un épisode. Mm-hmm. C'est, comme j'ai mentionné, c'est écrit et réalisé par Aaron Sorkin. Ce pourquoi je trouve ça intéressant, parce que j'aime beaucoup Aaron Sorkin, mais comme on a parlé un peu auparavant, à date, Sorkin, il est meilleur et il est plus fort quand c'est quelqu'un d'autre qui réalise. C'est un...
Mm-hmm.
C'est 50-50 ou peut-être même 60-40 quand c'est lui qui était aux commandes de son propre matériel.
Ouais, ben c'est pas un réalisateur particulièrement cinématographique. ça a l'air de la TV. Je pense que, tu sais, à son meilleur, ce que Sorkin écrit, ça sonne comme de la TV, mais au cinéma, tu sais. Ou tu sais, la TV sonne comme du cinéma, tu sais, je sais pas trop. C'est, lui, il est comme un peu dans les pionniers de faire le pont entre les deux affaires. Mais visuellement, je trouve qu'il est, t'sais, surtout le dernier, là, Trial of Chicago 7, là, ça a vraiment l'air, ça a l'air d'un film sur le corps de 1996. Là, t'sais. Puis là, ben, c'est ça, le trailer de Being the Ricardos est assez étrange dans la façon qu'il est présenté parce que vraiment, on voit essentiellement pas Nicole Kidman dedans du tout, c'est elle qui parle.
Ouais, il nous cache Nicole Kidman dans le rôle de Lucille Ball, de la même façon qu'on nous cache Paul Dano dans le trailer de Batman.
Exact. De la même façon qu'on nous cache la vraie efficacité ou ne pas efficacité des vaccins.
Regarde, on fait juste poser des questions. Là.
C'est ça. On fait juste tout, poser on nous dit questions. Rien. Mais c'est ça. Non. Fait que ça, c'est weird. T'sais, la façon que le trailer est monté, c'est très dynamique, mais à la base, on voit absolument rien. Comme ça me dit absolument rien sur le film ou de la façon que ça va être. C'est sûr que je pense que Nicole Kidman et Javier Bardem sont assez bien castés, là, dans la mesure où ça, on sait que c'est pour un biopic comme ça, ça prend des acteurs connus, puis si, puis ça, ça pourrait être payé. Ça, tout de même, vieux. Pour
oui.
Quand est-ce que ça se passe? Là? Parce que au début de I Love Lucy, il n'y avait pas 50 ans, là, il devait avoir genre 25. Que...
Oui, je crois que les acteurs sont au moins une dizaine, si c'est pas une quinzaine,
c'est ça.
Plus vieux que ce que leurs personnages sont. Là.
Bon. Mm-hmm. Ce qui n'est pas la fin du monde, mais ce que là, en ce moment, ce que ça veut dire des fois, c'est on va leur peinturer la face avec du CGI, ce que j'espère que ça ne sera pas le cas.
Mm-hmm.
Mais sinon, tu sais, je suis curieux. Là. Moi, j'aime bien ça, ces affaires-là, ces vieilles affaires d'Hollywood des années 30, 40, 50. Tu sais, Mank, qui est le film le plus plat du monde, j'ai quand même trouvé ça bon. Mais tu sais, j'en conviens que tout le monde s'en crisse avec raison. Tu sais, c'est comme moi. Ouais, mais moi, je suis content. J'aime ça vivre dans ce monde-là. Tu sais, fait que je suis quand même assez dans le pocket. Pour ça, mais c'est ça, je suis curieux de voir, ça sort quand même bientôt, c'est un film de Prime, fait que ça va sortir au cinéma, mais ça va être sur Prime le 21 décembre, donc tu vois qu'ils sont en train de le pousser pour que ça soit un film à Oscar, là, avec cette date de sortie-là, mais curieux parce que cette année, je sais pas de quoi ça va avoir l'air les Oscars, sérieusement, tu sais, comme d'habitude, même rendu ici, là, mi-octobre, on le sait un peu, là, tu sais, qu'est-ce que ça va être les films à Oscar, puis ça sera sûrement pas Titan. Tu sais, les films qui ont gagné les festivals, ça, c'était weird. Fait que je sais pas.
Écoute, apparemment que malheureusement, The Last Duel s'est écrasé au box-office, mais j'espère qu'il va rester assez longtemps en salle, parce que j'aimerais ça, faut qu'on aille le voir. Là, notre boy est là, notre boy Ben. Ah ouais.
J'aimerais ça aussi aller le voir. J'ai pas pu y aller pour Cord, c'est Justine qui est allée. Là. Mais,
En tout cas, s'il est là, si jamais il est là au Paramount, à Rouen...
En français?
Ouais, ben il projette des films en anglais aussi. Mais je pense pas qu'il projetterait ça en anglais, par exemple.
Mais non,
on veut full band, là, on le veut en anglais.
C'est moi, je suis Jean de Carouge. Putain, hein. Enculé.
C'est en train de me vendre. T'es en train de me vendre sur le voir en français.
Ça se passe en France, donc c'est, tu sais, donc j'imagine on peut le regarder, mais c'est quand même justement ce que je veux, c'est Ben Affleck qui fait un accent français, tu sais, Chris.
Un ancien français, là. Ah oui, donc on peut pas se priver de ça.
Je pense qu'on a déjà parlé de ça, mais t'as-tu déjà vu The King avec Timothée Chalamet?
Non, je n'ai pas vu.
C'est vraiment plate, mais à 10 minutes de la fin, Robert Pattinson arrive en tant que français, puis il fait un accent comme Pépé Le Pew, là, genre un accent vraiment de cartoon de français. Et c'est fantastique, ça n'a aucun esti de rapport. C'est parfait, c'est incroyable. Mais... tu vois, je pense pas que c'est ça, The Last Duel. Fait, ouais.
Écoute, au voyeur de vue, on aime ça, une bonne cascade d'accent.
Ah, c'est ça qu'il faut, le mieux possible. Son personnage, c'est le dauphin. The dauphin.
The dauphin. Parce que, là, on vit une époque de spectacle, d'images, de synthèse, puis de monstres. Mm-hmm. Mais un ordinateur peut pas créer des accents de même. Je veux dire, techniquement, non, ils peuvent, vrai. Mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas.
Si techniquement ils peuvent, qu'ils le fassent, hostie. Hein? Jusqu'à preuve du contraire, moi, j'attends qu'ils le fassent. J'attends qu'un ordi me parle comme Robert Pattinson me parlait dans The King.
Comme imagine, ça pourrait être ça, ton Siri. Ce serait merveilleux. Je parlerais tout le temps.
Effectivement.
Alex, qu'est-ce que tu as vu cette semaine?
Oui, ben moi, j'ai continué chez Octobre. Là, au moment où on se parle, on est mardi. Le
19
octobre. Et donc, là, il est 8h45 et j'ai regardé... juste un instant, je pensais que ça allait aller plus vite. J'ai regardé 28 films d'horreur ce mois-ci. Yeah. Donc, je suis en ligne, enligné pour aller plus loin que le 31 préétabli. Et donc, pour cette semaine, j'ai encore parlé de films d'horreur que j'ai regardé cette semaine. Et je vais commencer par The Night Eats the World, un film de 2018, réalisé par Dominique Rocher, qui est basé sur une bande dessinée du même nom, par Pete Agarman. En fait, la bande dessinée s'appelle La nuit a dévoré le monde. C'est ça, c'est étrange. The Night Eats the World, c'est un film français en anglais.
Oui, en fait,
qui arrive parfois.
Ça l'arrive parfois, mais là, je viens de regarder ça. J'ai déjà vu ce film aussi. Mm. Lorsque la première fois que que tu m'as recruté pour t'aider à Fantasia,
ah, oui, okay.
C'est un des films que j'avais visionné.
Ah. Bon, ben donc, j'ai regardé ça parce que je pense que j'ai dû le mettre sur ma watchlist d'Amazon Prime il y a quand même longtemps. Puis là, j'ai vu ça, j'ai fait, c'est quoi ça? C'est un film d'horreur. Fait que je vais le regarder. C'est assez simple, c'est un film de zombies, en fait, qui met en vedette Anders Danielsen Lie, un acteur norvégien, qui joue Sam, qui est un musicien qui fait comme un peu du sample, je sais pas trop. Puis il va chez son ex pendant un party pour aller chercher des cassettes, une boîte de cassettes qui lui appartient, parce qu'il veut utiliser ça, je pense, pour faire du sample dans sa musique ou quelque chose du genre. Quand il arrive au party, il s'endort, dans le fond. Il se fait cogner, puis il saigne du nez, puis là, il s'endort. Je ne sais pas s'il est supposé d'être... Il s'endort sur le divan, puis quand il se réveille, tout le monde, il n'y a plus personne dans l'appart, il y a du sang partout, tout est décrissé. Et il se rend compte qu'il y a eu, pendant la nuit, pendant qu'il dormait, une invasion de zombies. Ou, en tout cas, des morts vivants. Mm-hmm. Fait que là, il est pogné dans cet appart-là. Il ne peut pas sortir. Les zombies sont silencieux dans ce film-là. Ils font aucun bruit. T'sais, ils font pas de bruit vocal. Ils font des bruits quand ils touchent des affaires. Là. Et c'est ça, ils vont très vite. C'est des fast zombies dans l'apparence des zombies. Et ils sont vraiment... ils réagissent rapidement au bruit, au son, tout ça. Puis ils sont comme très... un peu comme des poissons, genre, tu sais, ils restent en paquet, puis ils se bougent tout en même temps, tout ça. Fait le film est essentiellement juste ça. C'est juste ce dude-là pogné dans cet appart-là à essayer de passer le temps, puis à comme vivre un peu en confinement. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant de le voir. Je pense que j'aurais moins aimé ce film-là si je l'avais vu en 2018 quand il est sorti.
Mm-hmm.
Mais de le regarder maintenant, j'étais comme, ça, c'est un excellent film sur la pandémie. Il savait pas, là. C'est pas fait par exprès, là. Mais, tu sais, j'ai trouvé ça très, très bien fait. C'est sûr que, tu sais, c'est pas le plus grand concept de film de zombies. C'est un peu mumblecore, là, tu sais, comme... Tu sais, un film de zombies où est-ce qu'ils se battent pas contre les zombies ou très peu, ou, tu sais, il y a vraiment juste... Ben, il y a quelques personnages qu'on voit. Il y a un personnage qui est joué par Ghost Shifteh Farahani, qui est... moi, je la connais parce qu'elle est dans Patterson. C'est la copine de Adam Driver dans Patterson. Puis aussi un zombie un peu domestiqué là, à la Bob dans Day of the Dead, qui est joué par Denis Lavant. Denis Lavant, qui est l'acteur fétiche de Léo Scarrax, qui est dans tous ses films, sauf... Il me semble qu'il n'était pas dans Annette, étrangement, mais...
Non, je pense pas. Mais ouais, lui, oui, c'est vraiment une performance particulière de... Il fait des faces.
Ouais, c'est ça. Mais parce qu'ils sont très... les zombies sont comme très... Je sais pas comment dire... aphasique un peu. Là. Ils sont comme... c'est pas juste comme... Ah, là, vu qu'ils font pas de son, ils sont très... Ils font des faces. Il n'y a pas d'autre façon de dire. Mais ils font pas de son, ils crient pas, ils hurlent pas. Fait que c'est particulier. Je dirais que c'est pas vraiment épeurant comme film. Là, c'est pas comme un film de jump scare ou de... Comme, je pense que les gens qui s'attendent à avoir full de gore, puis de pétage de gueule, puis de hache dans la tête, tout ça... Ils vont peut-être trouver ça un peu plate. J'ai trouvé ça plus intéressant du point de vue un peu psychologique, solitude.
Mm-hmm.
Parce que, justement, c'est quelque chose qu'on a tous vécu depuis que ce film-là est sorti, tu sais, à certains niveaux. Je veux dire, je pense que c'est particulièrement évocateur, mettons, du début de la pandémie, là, tu sais, des premières semaines où on connaissait, on savait pas trop qu'est-ce qu'on faisait, puis tu sais, tout était épeurant. Quand on disait « rester chez vous », c'était vraiment comme, à ce moment-là, vraiment terrifiant, je pense, pour beaucoup de monde. C'est ça, c'est un film quand même, tu sais, c'est intéressant. J'ai trouvé ça quand même, comment dire, j'ai bien aimé la retenue du film pour ce que c'est. Tu sais, parce que je pense que ça aurait été très facile que ça devienne... une chose ou un autre, ou tu sais, que ça prenne une twist. J'ai trouvé ça intéressant qu'il n'y a en fait essentiellement pas de twist. Ça fait une couple de films que je regarde cette semaine que je suis il n'y a pas de twist dans ce film-là, puis j'étais content. J'ai aussi regardé Creepy de Kiyoshi Kurosawa qui est sur Criterion. Ça, j'étais comme à tout moment, j'étais comme qu'est-ce que tu sais, ça se peut pas que ça soit lui le tueur, ça se peut pas que ça soit. Mais tu sais, non, c'est pas, il n'y a pas de twist, là. C'est juste une histoire racontée de bout à bout. C'est de ça que ça a l'air.
Mm-hmm.
J'ai trouvé ça rafraîchissant dans un sens, puis tu sais, je pense que là je commence à être un peu écœuré de Choctobre, là, ben honnêtement là, parce que je m'étais fait une liste un peu à l'avance, fait que là je cochais, mais tu sais, je me suis rendu compte que ma liste n'était pas assez variée, j'ai trop frappé le même clou sur la tête plusieurs fois là. Fait que ça a bien fait, c'était comme relax, c'était un beau petit trou normand dans mon Choctobre, dans le sens que tu sais, c'était comme pas trop niaiseux, pas trop d'idées mal rendues. Puis ça, c'est sur Prime. C'est bien fait. Là.
Qu'est-ce
que tu avais pensé de ça?
Moi, j'ai trouvé que justement, ça bougeait super bien autour de ses limites de budget. Justement, moi, je l'ai vu avant la pandémie. Fait que là, pour moi, c'est comme, ah, comment qu'ils vont rendre ça intéressant, le fait que le gars se barricade chez eux, puis
mm-hmm.
comment qu'il reste là, qu'il ne va pas nulle part, mais finalement, il décide de se promener un petit peu. Puis comment qu'il crée tout de même un monde extérieur ou un ancien monde à travers ses cassettes mm-hmm. qu'il écoute, puis qu'il s'enregistre, puis qu'il se fait des samples, puis des trucs comme ça. Fait que j'avais trouvé ça comme vraiment bien observé, puis vraiment bien fait autour de ses limites imposées. Là.
Mm-hmm. C'est rendu pas mal ingrat des films de zombies. Là. Il y en a beaucoup trop. Là,
mm-hmm.
C'est comme. C'est même pas, je pense. Il y en a encore plein de bons qui se font, mais c'est juste. C'est vraiment dur de se démarquer. Là, c'est vraiment dur de regarder un film de zombies et de pas pensé à tous les autres films de zombies. T'sais. Tandis que là, j'ai pas entièrement pas pensé à tout l'univers, puis toutes les règles, puis tout ce qui vient un peu placé avec ça, mais j'ai quand même trouvé ça intéressant. T'sais, ça m'a. Je trouve que c'est une belle variation sur une chose très familière.
Ben moi, en parlant de choses familières, j'ai vu le film de James Whale réalisé en 1935. J'ai vu The Bride of Frankenstein qui fait partie de la collection.
Oui. Yannick, est-ce que c'est le plus vieux film que tu as jamais vu?
Je ne sais pas si c'est le plus vieux film que j'ai jamais vu. Il faudrait que je check dans mon Letterboxd. Tiens, je vais y aller maintenant. Je vais y aller direct là. On check ça live. On est devant les ordinateurs. On va le savoir. On va le voir.
Ça sonnait comme si je t'accusais.
Genre. Ouais, tu m'accusais comme.
Hein, j'étais comme, voyons, Yannick. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas ça que je veux dire, mais je trouvais ça curieux quand même.
Mon plus vieux film, Alex, est Safety Last, de 1923. Ah. Mais, en effet, c'est quasiment mon plus vieux. Alors oui, c'est ça, j'ai vu Bride of Frankenstein, parce que bien sûr, on est en choc-tobre, et il y a une flopée de classique des mondes de Universal qui est sorti sur ce Criterion. Alors, je voulais en écouter quelques-uns. Et The Bride of Frankenstein, ça commence de façon vraiment comique et culottée parce que ça commence avec Mary Shelley qui chill avec son mari et Lord Byron. Mm-hmm. Et Lord Byron, il dit « Ah, Mary Shelley! » T'es donc capoté d'avoir écrit Frankenstein. C'est vraiment épeurant. Puis là, Mary Shelley est comme, ah oui, mais tu sais, j'avais une idée pour la suite. Puis là, on s'en va dans le monde du premier film de Frankenstein et ça continue. Drette là, c'est comme ça qu'ils font une suite. Tu sais, c'est une façon vraiment étrange comme d'essayer. De toute façon, je trouve tout de même intéressante d'imbriquer une suite.
Mm-hmm.
Et la suite du film, c'est la créature de Frankenstein est en cavale. Le village tente de l'enfourcher, de le tuer. Mais lui, il se sauve. Pendant ce temps, le docteur Frankenstein est de retour chez lui. Sa femme veut qu'il se marie et qu'il crisse leur camp. Mais son ancien mentor, docteur Septimus Pretorius, qui est joué avec une énergie genre de classique savant fou, que je pense que c'est là que ça a été inventé. Là, comme notre notion du savant fou, elle ne matche pas vraiment avec le docteur Frankenstein comme du film original.
Mm-hmm.
Il est tout de même un peu plus respectueux, genre il est un peu plus un lord, un fancy boy. Mais docteur Pretorius, ouais, par exemple, que nenni, il est sa coche, il fait pousser des êtres vivants miniatures dans des bouteilles, qui est un effet spécial assez bien réussi pour l'époque. Et de voir certains effets spéciaux bien réussis en noir et blanc avec les moyens de l'époque, il y a quelque chose de creepy parce que ça n'a comme pas l'air vrai, mais en même temps, ton cerveau est désengagé parce que comme comment ils ont fait ça, tu le comprends pas parce que tu le sais qu'il n'y a pas de CGI.
Ouais, j'en ai regardé un... Un film muet comme ça qui avait justement ce même effet-là de miniaturisation. Là. Puis ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, il faudrait que je le retrouve, mais qui était sur le Criterion. Puis c'était vraiment weird. C'était une affaire de comme un peu. C'est parce que c'est weird, parce que tu vois que ça n'a pas l'air vrai, mais ça a l'air de rien. C'est comme tu dis, c'est comme. Tu regardes ça, puis maintenant, des effets spéciaux, je les comprends. Mais ça, tu regardes ça, puis tu fais. Je sais pas si c'est-tu comme un overlay, là, c'est comme la pellicule est par-dessus une autre pellicule, puis ça run deux pellicules en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Le monde, il devait capoter, esti. C'est ça que j'ai pensé quand j'ai vu ce film-là. J'étais comme, imagine aller voir ça, là, en 1936.
Ouais, surtout si t'es un plus jeune, un enfant, là, tu sais plus qu'est-ce qui est possible.
Ton frigidaire, là, tu peux pas mettre rien dans ton frigidaire. Tu sais, t'as pas de frigidaire, probablement. T'as des blocs de glace que t'achètes d'un dude en cheval dans la rue. Tu sais, puis là, c'est au cinéma, mais il y a des petites. Tu sais, ça devait être fucking terrifiant. C'est sûr que c'est pas. Ça s'appelle The Devil Doll, le film que je pensais, de Todd Browning, qui a fait Freaks aussi. Puis c'est ça, il y a comme une affaire de. C'est ça, ils font rétrécir. C'est un voleur de banque, fait que genre, fait rétrécir des personnes en tout petit pour aller voler les banques à sa place. Puis là, ça chie. C'est vraiment un bon concept de film. C'est comme Ant-Man, dans le fond.
Ouais. C'est comme mais aussi ouais. Un de mes comiques de Superman préférés, où après avoir été frappé par une météorite, Superman a un nouveau pouvoir. Il peut pitcher un plus petit Superman de ses mains, qui est plus fort et plus rapide et meilleur que lui. Et rapidement, toute la ville de Metropolis se met à aimer plus le petit Superman que le Superman original. Puis là, il est comme en crise.
Ouais.
Ça arrive. Bref, une histoire avec une métaphore universelle, on se comprend tous dedans. Pour revenir à Bride of Frankenstein, ben là, c'est ça. Dr. Pretorius revient, puis là, il est comme Victor, moi, j'ai juste été capable de faire des petits bonhommes. Là, on va faire un bonhomme complet moderne. Puis on va faire une femme pour la créature. Et puis, c'est pas mal ça qui se passe. En tout ça, t'as bien sûr la créature, jouée par Boris Karloff, qui devient ami un bref instant avec un moine aveugle qui ne le voit pas comme monstre alors qu'il voit juste son genre d'humanité, qui lui apprend immédiatement à fumer du cigare puis boire du vin et manger du pain. Fait que tout de suite dans les carbs puis dans le gros jus pour la créature. Et il devient, par conséquent, plus humain et plus gentil. Et fait que tu as toute l'intrigue que c'est créer cette nouvelle femme qui va bien sûr être l'épouse de Frankenstein. Cela dit, j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est juste la photographie de ces films-là, comment c'est en noir et blanc, dans des énormes... c'est les énormes décors de forêt, de châteaux, la caméra qui se promène à travers ces gros décors-là, c'est somptueux, c'est de toute beauté. Là où je te dirais que c'est décevant, c'est que, tu sais, je pense qu'on connaît tout iconiquement la notion de Bride, la femme de Frankenstein, mais elle apparaît vraiment juste à la fin du film et ne fait pas grand-chose. Fait que là, tu réalises, en fait, elle ne fait que crier de façon stridente. Hein? Les femmes, hein, je te dis! Mais, tu sais, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que j'avais, tu sais, dans ma tête, la femme de Frankenstein arrive à mi-chemin puis elle va être comme une créature tragique, intéressante, contrepartie à Frankenstein, mais c'est pas ça. Elle fait juste être là pour les 5-10 dernières minutes et nous amène à la fin, qui est quasiment comme aussi une autre façon d'être culotté. The Bride of Frankenstein arrive juste à la fin et ça se termine direct là. Mais j'étais un peu déçu. J'espérais justement de découvrir si c'était comme un autre monstre Universal, mais finalement, elle est plus un look que d'autres choses.
Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'on la reconnaît parce que dans des décorations d'Halloween, quand on était des enfants, elle existait.
Oui,
On s'avoue que le look est vraiment écœurant.
Ouais.
Dans l'histoire, vu que c'est un personnage qui a été inventé, justement, toutes ces affaires-là n'existent pas. Fait, pour le film, c'est vrai qu'effectivement, elle est un peu symbole plus que d'autres choses, mais il y a deux films où est-ce que, ils établissent plus le Bride. Là. Il y a The Bride, le film The Bride, je pense que c'est Frank Rodham. Avec Sting et Jennifer Beals qui joue la Bride of Frankenstein. Et aussi Mary Shelley's Frankenstein de Kenneth Branagh, c'est Helena Bonham Carter qui la joue, puis c'est Robert De Niro qui joue le monstre. C'est pourri ce film-là, mais ça vaut la peine d'être vu quand même.
Mm-hmm.
Parce que tu sais, c'est Branagh là, qui fait Shakespeare, mais avec Frankenstein. Fait que tu sais, c'est vraiment. Ça en passe des affaires dans ce film-là. Là.
Quand est-ce que tu penses qu'on va voir son film d'Agatha Christie qui met en vedette Armie Hammer et Letitia Wright?
Je sais pas. Mais, tu sais, ils ont sorti l'autre qui a Johnny Depp dedans.
Ouais.
Puis ils l'ont sorti même quand Johnny Depp était déjà cancellé.
Soft cancellé. Ouais.
Mais là, l'affaire, c'est que, tu sais, je sais pas. Parce que Johnny Depp joue, bon, le premier, c'est Murder on the Orient Express, c'est ça?
Oui.
Ouais. Puis bon, Murder on the Orient Express, on sait, il y a quelqu'un qui se fait meurtrir. Et spoiler alert, c'est le personnage de Johnny Depp. Donc. Je pense que c'était correct, mais là, Armie Hammer doit pas jouer le personnage qui se fait meurtrir au début. Fait que je sais pas. Ça aussi, c'est poche, le Murder on the Orient Express de Kenneth Branagh. Moi, là, Kenneth Branagh, je te dirais, généralement, là, pas un fan. Aussi, là, il est responsable de Artemis Fowl. Fait que ça, c'est...
Oui, hein, c'est vrai.
Peu importe ce que tu vas faire, là, il faut falloir que tu travailles en esti, mon Ken, là, parce que...
Ouais, Ken, il est sur une côte avec toi. Là.
Moi, je ne vais pas l'oublier, là, Artemis Fowl. Là. Oublie ça. Là. Fait que... Mais bref, c'est ça. Moi, j'aime vraiment ça, Bride of Frankenstein. Puis, tu sais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais c'est un film que j'ai vu au début. Quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, tu sais, c'était un de médiafilms, c'est considéré un chef-d'œuvre. Mm-hmm. Puis je l'avais tapé à PBS, puis ou peut-être je l'avais regardé comme à 2h du matin à PBS. Puis j'aime beaucoup, là, tu sais, c'est une affaire que je me rends compte que j'ai souvent évité, plus jeune dans ma cinéphilie, les vieux films parce que j'étais comme « c'est plate », tu sais. Ce qui est vraiment stupide, c'est pas vrai. Ça gaule en esti des vieux films là, des années 30-40. Là, tout le monde parle fucking vite. Là.
Ouais, puis Brian genre... Frankenstein est comme 76 minutes.
C'est ça.
Bien tapé.
Puis là, maintenant, c'est ça qui arrive quand, tu sais, le soir, là, avant, j'étais comme, tu sais, le soir, je veux pas me casser le basic, je m'en calisse, je vais m'asseoir dans mon lazy boy, puis je vais regarder une marde de Bruce Willis. Là, je fais plus ça. Je m'assois, puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a comme screwball avec Spencer Tracy sur Criterion? Là, le monde, il parle vite, vite, vite. Là, je suis comme, yeah, tu sais, ça me garde réveillé, t'as pas le temps de t'emmerder, c'est ça. Bride of Frankenstein, c'est ça aussi, c'est extrêmement concis, puis c'est extrêmement, tu sais, tu te rends compte que même quand tu ne l'as pas vu, ce film-là, tu l'as vu. Là,
ouais, ouais, ouais.
C'est quand même hot. Là. Je veux dire, tu sais, mon grand-père, qui ça fait 25 ans qu'il est mort, il avait 7 ans quand ce film-là est sorti. T'sais, ça fait longtemps en crise, là, ça fait partie de la tapisserie de la culture. Puis, tu sais, c'est niaiseux de dire qu'il n'y aurait pas The Eternals sans Bride of Frankenstein, mais c'est vrai pareil. T'sais. Il n'y aurait même pas... Bride of Frankenstein est un des premiers à faire une suite inutile. Une suite qui est comme... c'est pas écrit nulle part qu'il devrait avoir une suite. C'est comme, ouais, check. On va trouver une façon.
T'sais. Ouais, check. Marie Shelley, elle va apparaître au début et elle va dire, les amis, il y a une suite.
Puis ça m'a fait penser qu'il y a un film que je voulais regarder qui s'appelle Frankenstein Unbound. C'est le dernier film réalisé par Roger Corman. Pas le dernier produit, mais le dernier que lui a réalisé. Qui est basé sur un roman, tu sais, comme un genre de. Une réadaptation, là, par Brian Aldiss, qui a écrit AI, là, le livre que AI est basé dessus. Mm-hmm. Puis, je suis juste mystifié par ça parce que dedans, il y a Mary Shelley, puis Lord Byron, puis Percy Shelley. Percy Shelley, c'est son mari, ça? Ouais.
C'est exact.
Puis c'est Bridget Fonda, Jason Patrick et Michael Hutchins du band INXS.
Eh ben!
Fait que là, je suis comme... Puis le docteur Frankenstein, c'est Raoul Julia.
Ah, il y a un personnage.
Il y a un personnage inventé, joué par John Hurt, qui est un docteur qui voyage dans le temps. Fait que là, je suis comme... Je suis excité de regarder ça. Ça fait partie de mes derniers choc-tobre.
T'as peur, c'est quoi le nom de ce film-là? C'est quoi le titre de ce film-là?
Frankenstein Unbound.
Frankenstein Unbound. Faut que je vais voir de quoi John Hurt a l'air là-dedans. Là. Excusez-nous, auditoire. Faut que je regarde si son costume a moindrement l'air d'un costume de Doctor Who. Et oui, c'est Victorien Voyage dans le temps. Il a l'air de Doctor Who. Parfait, car bien sûr, John Hurt est le docteur secret qui s'est battu dans la guerre temporelle.
Ah ben oui,
dans le 50. Il est apparu dans le 50e anniversaire. Il était écœurant.
Ah, ça a l'air sick. Là. Il voyage dans le temps. Il y a des chars. Il y a une genre de DeLorean. Par contre, le Frankenstein, il est vraiment laid.
Ouais.
Il a l'air d'un bonhomme de Babylone 5.
Oui. Mais le poster avec l'œil avec des coutures, ça, c'est sick.
Mm-hmm.
Puis je vois une photo de Raoul Julia qui a de l'air, qui a une style de grosse barbe, puis
il a cheveux.
Il a l'air d'être sur le party en crise. Fait que moi aussi, je m'en viens charmé par l'idée de Frankenstein dans le monde. Ça s'en vient bien, là. Fait que c'est ça, Bride of Frankenstein, un beau petit 76 minutes, pareil, sur Criterion, puis probablement sur d'autres plateformes aussi. Alors, allez voir ça. Je pense que mon prochain, ça va être, comme j'ai mentionné peut-être auparavant, L'Homme invisible, parce que je trouve que L'Homme invisible, design super sick. Fait que je veux voir le film original.
Ouais, je ne l'ai jamais vu. Je vais peut-être le slider. C'est facile à slider, les Universal Monsters. Il n'y en a pas un qui dure plus que 80 minutes. Là, fait que peut-être essayer de regarder ça. Excellent. Bon, moi, mon dernier film, mon deuxième film que j'ai regardé plutôt, j'ai regardé The Stuff de Larry Cohen. Est-ce que ça dit quelque chose, The Stuff, Yannick?
Non, mais je me semble que le nom Larry Cohen
oui.
Dit de quoi, cependant.
Oui, Larry Cohen est réalisateur et un writer, beaucoup de séries B comme LV. Puis, tu sais, c'est comme le genre de gars qui faisait des films de séries B avec des points de vue politiques, des trucs comme ça. Son film, je sais pas c'est quoi ses films qui seraient les plus connus. C'est lui qui a écrit Phone Booth avec Colin Farrell.
OK, ouais.
Mais dans ses films, tu sais, il y a It's Alive, là, qui est un bébé muté. Il y a God Told Me To à propos d'un genre de figure messianique qui dit au monde de tuer du monde. Il y a réalisé aussi plusieurs Blaxploitation, Bone, Black Caesar, Hell Up in Harlem. Il était très prolifique, là. Puis surtout en tant que writer, il est comme deux fois plus prolifique en tant que writer que réalisateur. Il a aussi fait Cue the Winged Serpent.
Mm-hmm.
Ça, c'est fou, là. Ça, c'est genre un film où un dude vole une banque. Là, il découvre que dans la banque, il y a un dragon qui vit dans la, tu sais, comme dans la tour. Puis là, David Carradine, puis le gars qui font Shaft, c'est des policiers qui essayent de le pogner. Gros film. Anyway, bon, Larry Cohen, The Stuff, c'est un film de 1985, ça met en vedette Michael Moriarty, Andrea Markovici, Garrett Morris et Paul Sorvino. Et c'est une histoire, c'est comme un film d'horreur, mais pas vraiment. C'est un film à propos. Donc, dans la première scène, il y a des dudes qui sont en train de construire un chemin de fer. Et dans la terre, dans un trou sur le sol, il y a une genre de mousse blanche qui sort, qui ressemble un peu à de la crème à barbe. Là, on voit un des dudes le prendre, le mettre dans sa bouche, et là, dire « c'est sucré, c'est délicieux ». Flash forward, 10 ans plus tard, l'affaire qu'il a trouvé, le stuff, est devenu est commercialisé. Donc, tu peux acheter ça comme dans l'allée des produits laitiers. Ça s'appelle « The Stuff ». Et le monde sont super accro à ça. T'sais, ils trouvent ça fucking bon. Ça a comme pas de calories, c'est crémeux, c'est bon. Tout le monde mange de ça tout le temps. Fait que là, la compagnie, l'industrie de la crème glacée engage un ancien agent du FBI qui est rendu un saboteur industriel.
Nice!
Joué par Michael Moriarty pour faire une investigation puis de voir qu'est-ce que c'est puis de saboter ça pour que la crème glacée repogne des parts de marché. Puis là, en checkant, lui, il est rejoint par Chocolate Chip Charlie, qui est joué par Garrett Morris, qui était dans la première. Il était de la première batch de monde de SNL.
Oui.
Qui, lui, est un dude qui vendait avant des biscuits, mais là, il a perdu des parts de marché de biscuits, fait que là, il est comme moi aussi, il faut que je trouve qu'est-ce qui se passe. Mo, le gars, Michael Moriarty s'appelle Mo, son personnage, il découvre que, dans le fond, le stuff, quand tu manges ça, tu deviens un peu possédé par le stuff, tu deviens un peu comme un zombie, puis tu perds, tu deviens une espèce de coquille vide qui n'existe que pour manger du stuff. Fait que, là, vous aurez compris que c'est une satire pas très subtile sur la société de consommation. Puis, c'est pas mal ça. C'est pas, tu sais, je dis que c'est un film d'horreur, mais tu sais... C'est vraiment un film d'horreur. Ouais, c'est assez comique, puis c'est weird, tu sais. Mais c'est horreur parce que, tu sais, c'est un film encore de zombies, puis tu sais... Éventuellement, c'est ça, il y a comme des militaires, là, une milice là, menée par Paul Sorvino qui veulent comme venir attaquer, découvrir. T'sais, ça devient comme compliqué, mais ce que j'ai vraiment aimé, en fait, c'est que c'est vraiment... T'sais, Larry Cohen, il a jamais été subtil là, dans ses films. Là, c'est pas vraiment son genre de shit. Fait ce que j'aime de ça, c'est... T'sais, moi, j'aime pas quand un film, mettons... Et pas subtil sur son message, whatever, moral, social, satirique, mais prétend qu'il l'est, genre.
Ouais, ouais, ouais.
The Stuff, c'est juste comme ça devient quand même weird, niaiseux. C'est assez low budget aussi, tu sais. Fait qu'on voit, tu sais, à la fin, il n'y a pas assez d'argent pour qu'il y ait beaucoup d'acteurs partout, tu sais. Mais c'est jamais comme une affaire de comme on va laisser paraître qu'on sait qu'on n'a pas d'argent ou on va laisser. Tu sais, c'est très inventif à ce niveau-là, puis c'est très débrouillard, mettons. Et c'est drôle, puis c'est particulièrement drôle à cause de Michael Moriarty. Michael Moriarty, qui est un acteur qui a surtout joué avec Larry Cohen. Tu sais, je pense que les films que moi, je connais surtout, c'est Larry Cohen. Tu sais, il est dans Troll, le premier Troll.
Mm-hmm.
Puis il a fait de la TV puis le truc de même, mais il était dans la première mouture, les quatre premières saisons de la première mouture de Law & Order. Puis il est super, tu sais, il a vraiment une qualité weird. Moi, sur Letterboxd, je l'ai décrit comme entre Christopher Walken puis Conan O'Brien. Tu sais, c'est pas, il est pas, il fait pas du over the top, tu sais, il fit à l'intérieur de l'univers. Mais il y a quelque chose d'un peu baveux, Bill Murray-esque, où que, il y a une joke que lui comprend que toi, tu ne comprends pas. Puis c'est vraiment ça qui donne le ton de toute la patente. C'est rare que, mettons, un film qui est autant sur les effets spéciaux, puis les monstres, puis les patentes, que ce soit aussi important que la performance soit dans le bon ton. D'habitude, les personnages ils peuvent être un peu génériques, puis tu mets de la sauce, tu mets du jus, puis du chenu, puis tout ça. Mais là, tu sais, c'est vraiment lui qui mène le bal, puis le film est comme un peu conçu autour où, tu sais, on voit pas la différence, mettons. T'sais. C'est intéressant parce que je pense que ça aurait pas pu être quelqu'un d'autre dans ce film-là. Puis tu pourrais pas dire ça d'un film de série B d'habitude, tu sais, parce que le concept est gagne toujours par-dessus le casting. Mais fait que j'ai trouvé ça, tu sais, j'ai ri quand même pas mal. Je trouve pas que c'est comme yo man, c'est vraiment ça. Là, c'est... Ce film-là dit tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est assez évident ce que ça dit. Là, il y a beaucoup d'annonces de stuff. Là. The stuff, it's wonderful. C'est très. They Live de John Carpenter est un peu dans ce. C'est un peu comme un proto They Live.
Ouais, ouais. Ben, c'est intéressant parce que tu sais que tu parles de ça parce que justement, il en parle un petit peu dans Blank Check ces temps-ci, vu qu'il revoit comme l'œuvre de John Carpenter. C'est comment que c'est correct de ne pas être subtil des fois. Quand tu pitches bien ton affaire, la subtilité, c'est pas nécessaire selon comme tu le sais.
Exact.
Puis j'ai écouté une entrevue avec John Carpenter, puis là, il disait qu'il parlait d'avoir. Ah, il dit des fois, c'est. C'est juste des cheap thrills. C'est correct. Puis, ouais, c'est ça qui. C'est le fun pareil. Surtout en choc.
Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que. En tout cas, c'est un film qui m'a quand même surpris. C'est un film que moi, j'avais surtout entendu parler de. C'était souvent un film que le monde me demandait. Tu connais tout ça? T'sais, j'essaie de me rappeler d'un film que j'ai vu quand j'étais kid. C'est comme une mousse qui sort de la terre. Puis là, j'étais comme, ouais, the stuff. Tu sais, je l'avais jamais vu. Mais, tu sais, c'est comme une affaire. Récurrent, fait que ça devait passer à TQS ou quelque chose. Parce que, tu sais, dans ma vie, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient un souvenir de ça, tu sais, qui les avaient perturbés un peu. Parce que je pense que c'est un peu un ton aussi que tu comprends pas full quand t'es un enfant, là, tu sais. Encore là, peut-être un peu Robocop, là, tu sais. Comme j'imagine, si t'es un enfant puis tu comprends rien, tu peux voir ça comme juste un film d'horreur, là.
Ouais, ouais, ouais.
Mais tu vas manquer, tu sais, ça va être vraiment weird. Tu vas voir ça de façon très étrange. Tandis que. Là, j'ai vu la satire dedans, puis j'ai vu un peu le cartoon. T'sais, dans la même mesure que Bride of Frankenstein, un peu, tu te dis comme... Ah, tu sais, il y a un... Ça a tellement affecté la culture qu'à un moment donné, on va être un petit peu déçu de ça, tu sais. Ça rentre un peu dans Slither, qu'on va parler tout à l'heure, tu sais. Je pense que Slither, c'est sûr que James Gunn, il a vu de stuff, puis il pensait à ça, là.
Ouais,
t'sais,
parce
que ça joue dans ce genre de ton-là, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça, c'est quand même intéressant. T'sais, c'est un film que je vais réécouter, je pense. Juste que c'est. Ouais, juste parce que je pense que c'est comme. Pas tout de suite, là. C'est rare que je fais ça. Juste parce que je trouve que ça a comme. Ça a un ton plaisant, genre, tu sais, funny, pas trop. Je sais pas, il y a quelque chose que j'ai bien aimé. Puis là, aujourd'hui, j'ai écouté un autre film de Larry Cohen, une autre comédie, Full Moon High, qui est un film de. Qui est comme un proto-Teen Wolf, dans le fond, qui est aussi un film de « Je suis un loup-garou au secondaire ». Puis c'était de la merde. C'était pourri. C'était vraiment pas drôle. Puis c'était vraiment... Fait que là, je suis comme... Je dis pas que Larry Cohen est capable de tout faire. Mais... Tu sais, comme... Ça, c'est un peu... c'est ça, là. Une affaire de... Une chance sur un million, là. Tu sais, que ça soit aussi bien rendu que ça. Puis il est sur Tubi, fait que...
Ah, voilà.
Disponible gratuitement. Il y a aussi un documentaire sur Larry Cohen qui s'appelle King Cohen, qui avait joué à Fantasia, qui est aussi disponible sur Tubi.
Très cool. Ben moi, je vais vous parler d'un film qui est disponible sur Amazon Prime et d'autres plateformes. C'est un un des rares films que je peux dire que j'ai vu la comédie musicale en premier. J'ai vu Heathers, le film de 1989 qui est Choctobre un peu, mais tu sais, par la bande. Que, c'est vraiment une comédie d'humour noir, une comédie comme un film d'ado d'humour noir, qui est réalisé par Michael Lemon et écrit par Daniel Waters. Ça met en vedette Winona Ryder et Christian Slater, et bien sûr Shannon Doherty avant qu'elle fasse Beverly Hills 90210. Et l'affaire qui est intéressante justement avec Heathers, c'est ça, c'est comme le genre de film proto-ado sarcastique à l'école. C'est comme le contraire de, mettons, John Hughes dans le temps. Des comédies comme de « Regarde, les adolescents ont des émotions puis ils sont du vrai monde. » Tandis que ça, c'est vraiment dans un genre de humour noir qui se veut comme dans l'humour puis dans le texte, c'est caricatural, stylisé, mais la réalisation en tant que telle est comme pas autant. On suit Veronica, qui est jouée par Winona Ryder, qui fait partie un peu des Heathers, que c'est le groupe des trois filles qui s'appelle Heather à son école secondaire qui gère socialement toute l'école secondaire. T'sais, c'est comme j'allais le dire, justement, c'est un proto Mean Girl de cette façon-là. Mean Girls. Fait que. Puis elle est comme pas heureuse dans cette position-là, même si c'est dans une position de privilège. Et elle voit à quel point ils sont méchants, puis elle se demande à qu'est-ce que ça sert, qu'est-ce que ça donne. Un moment donné, elle devient intéressée par Jason Dean, JD, qui est joué par le magnifique Christian Slater, très jeune, très encore là, qui est sémillant d'une énergie de jeune twink, un peu comme Jim Carrey l'avait été dans Her Girls Are Easy.
Bon, on l'avait vu dans Robin des Bois.
Oui. Mais dans Robin des Bois, c'est 3-4 ans plus tard. Là, il y avait du grit. Il y avait du grit, mais...
Il y a des gros cheveux dans ça. Hein? Il y a des cheveux vraiment sculptés. Là,
Non, ça c'est absolument... Des petits sourcils minces, une face pointue, des cheveux sculptés. Et puis le Jason Dean, il est comme too cool for school, il est sexy, il est ténébreux, il est très, c'est ça, un personnage cool, mais lentement il dit comme ah ben tu sais, si une telle ou un tel a des problèmes, ça fait juste le tuer. Et lentement, avec Veronica, il la pousse ou l'aide à tuer ces gens-là. Mais ce qui arrive dans l'école, c'est que la vie ne devient pas meilleure une fois que le mauvais monde meurt. Ils deviennent comme idéalisés dans leur mort. Les médias commencent à parler du suicide des adolescents, puis ça les rend complexes, toutes ces affaires-là. Et puis là, Veronica est comme à un moment donné, « Pas sûr, on devrait tuer tout ce monde-là. » Mais là, Jason Lee est comme, « Hey, moi, je pense que oui! » Fait que tout ça monte en escalation. C'est très intéressant, comme je dis, c'est l'aspect satirique est vraiment cool, mais l'ayant vu en comédie musicale en premier, qui était comme une représentation, une version faite par universitaire même, là, vraiment comme un petit truc, ça faisait briller plus les aspects wacky. Hey, c'est exagéré qu'on tue du monde, mais ça passe comme une lettre à la poste dans la comédie musicale. Dans le film, il est comme trop un pied dans la réalité de films d'école secondaire des années 80, que c'est comme un peu weird, même s'il y a des touches ici et là. Elle et ses amis, Veronica, ils jouent au croquet. Fait que là, il y a comme des scènes de rêve où il joue au croquet et elle imagine que sa tête fait partie game et des affaires comme ça.
Oui, je me souviens de ça.
Fait que même s'il y a ces aspects-là, l'univers est comme reflète pas assez bien le propos, à mon avis, même si c'est vraiment le fun, c'est vraiment bien écrit, il y a des bons liners, il y a vraiment comme une bonne philosophie derrière. Tu sais, il y a même des moments vraiment rough. À un moment donné, elle planifie de tuer, comme avec Jason, deux autres personnes. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'on les voit, ces deux doudes-là, ces deux jocks-là, ces deux athlètes de football-là, la soirée d'avant, ils voient comme dans une date catastrophique, puis en arrière, avec, tu t'en vois un qui va clairement comme, qui est en train de se forcer sur une jeune dame et de la violer. Puis ça, c'est dans le background pendant que d'autres personnages parlent. Puis là, t'es comme « Wow! Ceci est vraiment rough. » Puis encore là, c'est pas en concordance avec tout le ton du film. Bref, c'est vraiment curieux. Mais ça chante justement grâce à Winona Ryder et Christian Slater qui sont super charismatiques, sont à la hauteur de leur puissance en tant que jeunes acteurs. Même si le texte n'était pas vraiment bon, ça marcherait pareil. Mais le texte est vraiment cool. Cela dit, ça, j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Mais tu sais, je voyais le monde sur Letterboxd, mettons, puis là, tout le monde était comme génial. Un texte important sur comment que les ados sont écrits au cinéma de façon pop, toutes ces affaires-là. Puis moi-même aussi, comme d'habitude, je compare ça à tout. Tu sais, je vois comme les os de Buffy the Vampire Slayer qui sont là-dedans. Mais dans Buffy the Vampire Slayer, les adolescents qui sont monstrueux sont réellement des monstres. T'sais. Fait que c'est ça, c'était bien. Là, si tu veux te faire comme un genre d'album de films d'ado des années 80, un genre d'album de films d'ado des années 80, Heathers devrait être dedans. Mais cela dit, j'ai pas bien absorbé ce qui est son iconicité puis son charme de l'époque. Là.
Je pense que c'est... Moi, j'ai vu Heathers probablement que j'avais 17 ou 18 ans. C'est pas un film qu'au Québec, il était pas à TV, je me souviens pas de l'avoir vu au club vidéo non plus. C'est un film que je me souviens que certaines personnes sur Internet, là je parle d'Internet comme avant que je déménage à Montréal, là, fait genre 2002, là, parlaient de ça comme un film important de leur adolescence. Puis c'était comme introuvable. Tu sais, comme ça, c'était pas quelque chose qui faisait partie de l'environnement. En tout cas, pas de moi. Là, tu sais, fait que moi, je me souviens de l'avoir vu à cause de ça parce que tu sais, je voyais du monde capoter là-dessus. Même chose avec Pump Up the Volume, par ailleurs, avec Christian Slater. Puis je me souviens d'avoir trouvé ça vraiment intéressant. Mais là, je te parle de quand même, j'ai écouté ça probablement en 2002. Tu sais. Je pense que À cette époque-là, ça avait 13 ans, ce film-là. Donc, c'était aussi vieux qu'un film d'ado de 2008. C'est à la même âge que Jennifer's Body. Ah, oh, maintenant. fait que ça semblait comme un futur relativement rapproché. Je pense que ça a été beaucoup... Tu sais, on parle de ça des fois. Il y a des films... C'est pas tellement qu'il y a des films qui ont mal vieilli, que c'est juste que quelqu'un a raffiné cette affaire-là. Puis là, on a la version... Uncut, le Uncut Gem original. Je pense que c'est ça. C'est un film qui est important, mais je pense que c'est pas le meilleur exemple de ce que ça représente, là, pour autant. Mais tu sais, ça a été fait à un moment, mettons, où c'est quelque chose comme même Freaks and Geeks semblait impossible. Tu sais, comme une affaire un peu plus réaliste slash acerbe à propos d'être un ado. Là, tu sais. C'est sûr, c'est en réaction aussi au film de John Hughes, comme tu disais. Ça va vraiment à l'encontre de notre conception de ça, mais c'est sûr que c'est une bonne chose, dans le fond, que Heathers soit de moins en moins relatable. Ça veut dire que les choses se passent bien. Fait.
Alors, c'est ça, disponible sur Amazon Prime. Alex, on est maintenant dans notre film de la semaine, notre programme principal, ce qui est Slither de James Gunn, n'est-ce pas?
C'est cela. C'était ma suggestion. C'est sûr que c'est souvent ma suggestion, c'est que tu acceptes toujours ou tu as le droit de veto sur mes décisions. Là, mais
oui, mais je te laisse aller, je te laisse guider de par ta culture de cinéma. Un moment donné, il y aura mes pics selon ce qui s'offre à nous. Selon ce qui s'offre à nous.
C'est ça. Ben, tu vois, là, Slither, ça, c'en est un que je regrette maintenant.
Oui.
Un petit peu. C'est un film que j'avais adoré quand c'était sorti en 2006. J'étais à l'époque un très grand fan de Trauma. I guess que je suis encore dans le sens que j'ai pas réécouté ces films-là. Donc, tu sais, mon opinion est la même qu'elle était en 2006, mais je suspecte que si j'étais pour les revoir, ce serait pas le cas. On a déjà parlé de Trauma un peu ici, mais c'est une compagnie de production indépendante de films. Très trash, une compagnie américaine qui fait des films à très, très bas budget qui sont très, très, très trash. Souvent très, tu sais, du caca, du vomi, des tâtons, des têtes qui explosent, enfin de même. Mais avec, c'est quand même un humour assez bon enfant. C'est pas vraiment edgelord. C'est un peu comme...
C'est plus ça, c'est plus dégueu.
C'est ça.
Que edgelord.
Puis c'est assez cartoon, tu sais, c'est comme... Ça se veut offensant pour tous, mais tu sais, c'est pas... Ça prend pas vraiment de position, tu sais. Il y a des jokes de sida et des affaires de même, mais c'est pas comme... Tu sais, c'est un peu dans la lignée de John Waters, dans le fond. Tu sais, John Waters qui fait des affaires complètement épouvantables, mais que tout le monde a du fun, tu sais. Les gens... Personne ne fait rire d'eux dans les films de John Waters si ça ne serait que les gens normies, tu sais. Fait que James Gunn venait de là. Il vient de l'école, gros moi. Il a écrit un film qui s'appelle Romeo and Juliet. Puis, j'avais hâte, moi, quand il a fait ça. Tu sais, il est devenu, après Romeo and Juliet, il a comme rentré dans le système hollywoodien un peu. Il a écrit quelques films mainstream, incluant les deux premiers Scooby-Doo et Dawn of the Dead de Zack Snyder, qu'on peut même annoncer, on va l'annoncer aujourd'hui, c'est le film de la semaine prochaine.
Oui, on a une grosse année, Zack Snyder. 2021, c'est l'année de Zack pour les voyeurs de vue. C'est Zack Attack.
Parce que, ben, tu sais, ouais, c'est ça. Justement, on va suivre James Gunn, puis aussi Dawn of the Dead, ça nous ouvre un peu des portes intéressantes parce que c'est la... l'actrice principale, c'est Sarah Paulson. Mm-hmm. C'est weird. Tu sais, comme c'est pas comme ça elle a fait plein de blockbusters puis d'affaires, en tout cas. Moi, j'ai tout un chemin de tracé quasiment jusqu'à Noël. On en parlera off-mic, là, mais... Fait que bref, c'est ça. Fait que moi, j'avais hâte de voir ça parce que c'était l'idée de... Tu sais... Ah, trauma dans le mainstream maintenant. Tu sais, comme quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Puis, j'avais vraiment aimé ça quand je l'avais vu, mais je pense aussi que c'était comme au début... d'une genre de wave d'horreur funnée dans laquelle on est encore, je pense. Tu sais, comme ouais. Le genre d'horreur sarcastico-ironique. Can't believe, tu sais, well, that happened. De l'horreur, well, that happened. Tu sais. Puis à cette époque-là, à ce moment-là, c'était super original. Puis là, en l'écoutant cette semaine, j'étais comme aïe aïe aïe, je me suis comme quand même solidement emmerdé en le regardant. Je trouvais ça quand même plate. Fait que, c'est ça. Des fois, je revisite des films pour le podcast. Ça fait super longtemps que je n'ai pas vu. Puis donc, je tire un bon souvenir et je me dis, c'est encore bon. Slither, j'avais moins cette impression-là en le regardant cette fois. C'est la première fois que tu l'avais jamais vu avant?
Je l'avais jamais vu. C'est la première fois que j'ai vu Slither. Pour expliquer un peu à nos auditeurs ce qui se passe dans Slither, c'est qu'on voit un météore, un morceau de météore tomber de l'espace dans une petite ville de la Caroline du Sud où il y a un parasite qui en sort, qui vient contaminer Grant, qui est Grant, qui est joué par Michael Rooker, qui est notre lien, justement, de Henry, ouais, voilà. The Portrait, de Serial Killer, jusqu'à Slither. Et le parasite s'enfouit en lui et il devient comme le vecteur humain pour ce parasite extraterrestre-là. Fait que là, il commence à agir de façon bizarre. Il essaie de contrôler ses propres pulsions charnelles émotionnelles, puis de les dealer avec les nouvelles pulsions qui viennent du parasite, et il essaye d'éviter de faire du mal à sa femme, qui est jouée par Elizabeth Banks, qui, elle, trouve quelque chose de curieux qui se passe avec son mari, et ça vient aux oreilles d'un de ses anciens amoureux, qui est un des shérifs de la ville, joué par Nathan Fillion, et ce qui arrive, c'est que Grant se transforme de plus en plus en une créature d'un autre monde, et va entretenir une relation avec une autre femme qui avait de l'intérêt pour lui, et il l'utilise comme de façon à continuer à procréer des limaces, des parasites extraterrestres qui viennent qu'à exploser de par la ville, recouvrir la ville et d'envahir la petite ville de Caroline du Sud. C'est essentiellement un genre de blob. Il y a un peu, tu sais, le maire de la ville s'appelle Jack McReady. Fait que là, tu sais, il y a un petit peu de thing là-dedans. Il y a. Ce qui se passe essentiellement, c'est que la créature extraterrestre, puis tout ça, puis la petite ville, c'est. Moi, je l'ai vu, j'ai trouvé ça bien, mais ce que j'ai trouvé, c'est que essentiellement, c'est un genre de façon pour James Gunn de faire. C'est son premier film d'horreur qu'il réalise à gros budget. Alors, par conséquent, c'est juste une grosse collection de plein de codes d'horreur qu'il voulait faire, puis qu'il les a alignés avec son idée de parasite à travers ça. Et je te dirais que pour la plupart, ça, je trouve que c'est bien exécuté. Tu le vois comme se glisser au travers des limites de budget puis de, d'envergure qu'il peut avoir avec son premier film. On a parlé souvent d'humour de « well, that happened », qu'il y a beaucoup là-dedans qui vient beaucoup de l'humour des années 2000. Tu sais, c'est des jokes où un personnage, dans le fond, c'est qu'au lieu d'écrire une joke, tu fais juste faire que le personnage réalise comme « ceci est dégueulasse, ceci est weird, ceci est troublant ». Puis ça peut être drôle si tu mets un peu plus d'effort, mais c'est devenu un genre de blague super paresseuse qu'il y a à toutes les sauces dans toutes les affaires de genre maintenant. Fait que, puis ça, il y en a beaucoup dans Slither. Cela dit, j'ai aimé ça. Elizabeth Banks est super bonne, je trouve. Est vraiment bonne pour jouer comme une personne normale, mais qui réalise l'ampleur ou l'horreur de ce qui lui arrive. Puis, elle a juste fait genre Brightburn aussi, que j'ai vraiment pas aimé, mais dans laquelle elle est très bonne. Je suis comme surpris qu'Elizabeth Banks n'ait pas fait plus d'horreur. Comme je trouverais ça cool qu'elle aille.
Elle a juste. Non, il me semble qu'elle en a fait un avec. C'est pas avec Gary Oldman ou une affaire de même, une affaire que j'avais vue. Parce que c'est comme un. Aïe, aïe, attends, je vais trouver ça. The Uninvited. C'est avec David Strathern. C'est un remake d'un film coréen. Tu sais, dans le temps que les films coréens pognaient, fait que tout le monde faisait des remakes de films coréens.
Ah oui, oui, oui.
Elle en a fait au moins un autre. Ça, c'est. Je dis ça. C'est pas pour te corriger, c'est parce que je travaillais dans un club vidéo quand c'est sorti, donc je m'en souviens.
tu voulais confirmer toute la
fin. Gary Oldman en avait un aussi, comme ça, un film à cette époque-là. Je pense The Unborn et non pas The Uninvited.
Ah, ouais. Mais, c'est ça, mais pour de. J'ai trouvé ça. C'est comme je t'ai dit, j'ai trouvé ça bien. C'est correct, tu sais. Le film prend une coche comme à la 50e minute quand les limaces. Attaque la ville puis qu'il y en a plein parce que là tu vois que c'est comme ok, c'est pour ça qu'il voulait faire ce film là. Une affaire qui est intéressante avec James Gunn, c'est que si tu le suis sur les médias sociaux, tu le vois qu'il aime les animaux. On le voit aussi beaucoup dans ses films, tu sais, une des raisons pourquoi mettons l'effet de Rocket Raccoon dans Guardians of the Galaxy est bien réussi, c'est que il est comme rempli de bons détails animaux observés. Tu sais, dans Suicide Squad aussi, il y a une couple d'affaires au sujet que tu vois des animaux comme...
Weasel.
Tu as le Weasel, mais tu sais, Michael Rooker, au début de Suicide Squad, la façon que tu sais véritablement qu'il est méchant, c'est qu'il tue un oiseau au début. T'sais.
Oui, c'est vrai. Oui. Avec une balle.
Fait la façon que, tu sais, toutes les limaces bougent puis qui ont des petits cris qui sont quasiment cute, tu sais, sont super bien observés puis bien rendus, puis toutes les affaires d'écrapous aussi sont faites avec un réel soin, puis il y a beaucoup d'amour. Fait que ces aspects-là sont vraiment le fun. Le reste, c'est assez ordinaire. Tu sais, je trouve que dans les milieux nerds, le monde adore Nathan Fillion. Puis, il est bon en général, mais là-dedans, moi, je le trouve juste correct. Il est comme un tu sais, il est choix du président Kurt Russell.
Ben, c'est exactement ça. Moi, je pense que c'est comme. C'est que, tu sais, il est charismatique, il est le fun à regarder. Et j'ai l'impression que James Gunn a dit, ben, ça, c'est comme Kurt Russell. Tu sais, tu pourrais être comme Kurt Russell. Puis, c'est vrai. mais pas avec sa personne. T'sais, le personnage n'est pas assez bon. T'sais, il ne peut pas faire des miracles, Nathan Fillion. Puis c'est un peu ça qui arrive. Je trouve qu'il est flat un peu comme personnage principal. Surtout comparé à côté de Elizabeth Banks, que je trouve qu'elle est vraiment bonne dans ce film-là. Là. Puis Michael Rooker aussi, qui a une tâche quand même ingrate d'être en mutation constante tout le long. Là. Puis, mais ouais, tu sais, je pense que c'est effectivement, moi aussi, j'aime bien Nathan Fillion, puis je trouve qu'il est vraiment bon dans l'émission que je parle tout le temps de, que personne d'autre regarde ou regardait, de Santa Clarita Diet. Il est dedans dans les deux premières saisons. Puis, tu sais, je le trouve comme intéressant, mais j'aime mieux la mouture de Nathan Fillion maintenant quand qu'il est plus joufflu, puis il est plus niaiseux, puis qu'on essaie moins de le faire devenir Kurt Russell, genre.
Ouais, oui.
C'est plus intéressant. Comme. Mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve, en le réécoutant, ce que j'aimais vraiment, c'est les effets pratiques et où il y a du CGI, il y a les deux. Là. C'est vraiment un film très dégueulasse, très gluant, très dégueulasse. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. T'sais. Plus ça va, plus ça devient comme... Ça, en fait, c'est un trend de cette époque-là, là, mi-2000. Une grosse masse de glu puis de, tu sais, comme de peau gluante avec des faces qui sortent. Là. Il y a ça aussi dans Saint-Martyr des Damnés de Robin Aubert. À la fin, c'est ça le twist. Là. C'est comme une grosse boule de chair avec des jambes puis des faces puis tout. Je pense que ça, c'est quelque chose comme que la technologie a pu permettre à ce moment-là. Mais en même temps, il y a un réalisateur qui s'appelle Brian Yuzna, qui est un réalisateur de série B, là, c'est lui qui a fait genre les suites de Reanimator puis The Dentist avec Corbin Burnson. Puis il a fait un film qui s'appelle Society, qui est aussi à propos... Ben, ça, c'est un spoiler un peu, là, mais genre, il y a des affaires en commun avec Slither. Fait que là, c'est une affaire aussi que je me suis rasé en le regardant, c'est que quand j'ai vu ça plus jeune, j'avais pas vu plein de... piliers iconiques de l'horreur.
Mm-hmm.
Puis là, maintenant que je les ai vus, je suis comme, ah ouais, hein, c'est vrai que c'était pas mal moins original que je pensais. Fait que, tu sais, je pense que c'est un bon, tu sais, ça existe à son époque, là, mais tu sais, c'est un bon baby's first film d'horreur. Tu sais, je pense que quelqu'un qui aime pas beaucoup les films d'horreur ou qui connaît très peu de choses là-dedans, c'est une bonne place à commencer. C'est très accessible.
Ouais.
Sauf que moi, j'ai trouvé ça un peu dull. Tu sais, surtout l'humour puis le dialogue que je trouvais qu'il avait très mal vieilli, qui était très... comme je t'ai dit en textant, c'était très Maddox. Là, tu sais. C'était très Internet 2006. Là. Tu sais, fuck me sideways là, ou des shit de même.
Ouais,
là,
ouais.
Là. Jesus cabbage fucking Christ.
Ou ouais, des shit de même. De... Essayer trop fort avec les sacres et la profanité là,
exact.
De cette époque-là.
De l'empilage de profanité puis des affaires de même, que ça me gossait, tu sais, puis c'est pas... Ça devrait pas être mortel, mais tu sais, maintenant qu'on a Deadpool, je suis comme... Il est trop... Tu sais, regarde ce qu'on a fait, là. On a créé Deadpool à cause de ça, là. Là, on est pogné avec Deadpool à cause des films comme Slither, tu sais. Fait que... T'sais, c'est le contraire de Heathers dans le sens que Heathers, on a amélioré là-dessus. Mais là, Slither, on a rempiré. Là, c'est rendu Deadpool. Tout, c'est rendu un personnage qui fait juste ça. Le film en entier est basé sur des jokes de « It's like looking for a needle in a fuck stack. » Ça, c'est comme une joke de Ryan Reynolds. T'sais, tu comprends? C'est ce genre d'humour-là que j'ai déjà aimé et qui, en petite dose, fonctionne, je crois, quand même.
Mm-hmm.
En saturation, je suis comme plus capable. Fait que là, je regarde ça, puis je suis comme, si je suis plus capable.
C'est ça, tu sais, ce genre d'humour-là, c'est comme l'humour d'un sidekick funné qui est transféré au héros principal.
Exact.
Que, justement, Kurt Russell pouvait comme faire dans le temps, puis c'est peut-être pour ça que ça existe maintenant, ça. Mais en tout cas. Mais c'est drôle, dans mes notes, j'ai écrit comme... C'est essentiellement un... Tu sais, tu parles de c'est un bon baby's first... mon premier film d'horreur, mais il y a aussi une grosse vibe de mon premier film que je réalise. Il y a toutes les affaires que j'aime dedans. Puis, je suis comme, c'est bien, mais j'ai écrit comme, ceci est un moins bon Shaun of the Dead, dans le fond.
Mm-hmm.
Parce que, comme Edgar Wright, il a tout crissé des affaires qu'il aimait, puis qu'il allait faire plus tard dans ses autres films, dans Shaun of the Dead, mais c'est juste comme vraiment plus, ça traque, ça y va, puis c'est tête, là. Fait que, j'avais de la misère à pas le regarder avec une certaine sympathie à cause de ça, mais je suis comme, ah ouais, c'est juste correct. Il y a aussi, ce qui est le fun de voir, c'est comme toutes les touches de James Gunn sont là. T'as dû amener de la musique des années 70, c'est du vieux Top 40 compilation AM des années 70 mm-hmm. qui fait partie de l'histoire. T'as justement le détail à la vie animale, puis tu sais, il y a comme. Il drop ça plus tard dans le film, mais au début du film, il y a beaucoup d'affaires sur on mange de la viande, on chasse des animaux, puis ultimement, un prédateur extraterrestre nous utilise comme genre d'incubateur, genre de viande, des affaires comme ça.
Mm-hmm.
Puis il y a aussi un peu sa sentimentalité, mais qui est vraiment comme super développé, mettons, dans les films de Guardians, dans des films qui, j'imagine aussi dans le futur, ils vont faire d'autres films pour Disney, ça va être ça.
Mm-hmm.
Mais tu vois que c'est pas encore tout là.
Ouais.
Un affaire, par exemple, si je vous ai noté, c'est que ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est que la ville où ça se passe, la région, est comme dépeinte de façon vraiment comme honnête,
mm-hmm.
réaliste. T'sais, au début, il y a comme une genre de soirée de « Hey, c'est le début de la chasse », c'est ça aussi, tu vois, des éléments de jazz là-dedans avec le maire. Mm-hmm. Je trouve que c'était vraiment juste. Puis il y avait aussi un gros aspect de comme, OK, ben c'est des rednecks, puis ils sont de même, puis c'est ça. Puis c'est, mm-hmm. c'est juste assez caricatural dans le sens qu'il existe, mais que ça ne les juge pas non plus. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien observé.
Oui, effectivement, il n'y a pas. Ben, tu sais, il y a au début du film, il y a quand même un aspect de comme, regarde ce monde lettre là. Qui aiment des affaires nazes. Surtout, tu sais, je te parle de majoritairement des figurants, là, tu sais, des gens qui sont présents. Tu sais, t'as beaucoup de monde avec des boutons, puis du monde, tu sais, comme, mm-hmm. qui ne fit pas dans les standards de beauté classiques. Ça aussi qui était une affaire vraiment de l'époque, là, tu sais, c'est du post-Napoléon Dynamite, un peu de comme, check le monde weird, il porte ses pantalons. Oh, il n'est pas à la mode. Mettons, objectivement, pas nécessairement une mauvaise chose. Tu sais, je ne vais pas condamner ça mm-hmm. entièrement. Au début, c'est pas. C'est un peu gossant, je trouve. Mais tu sais, ça devient que tout le truc est horrifique, tout le truc est grotesque. Donc, tu sais, c'est normal que. Je pense que ce que c'est de dire, c'est que tu sais, ça devient plus grotesque, mais c'est un petit peu grotesque to begin with. Là, tu sais, c'est
mm-hmm.
une invasion de. D'extraterrestres phalliques qui se forcent dans nos bouches. C'est grotesque, mais le monde dans lequel que l'on vit, c'est grotesque également.
En effet.
Ce qui est pas... ce qui est excusable, comme parce que encore là, je peux l'excuser parce que ça a été redit 100 millions de fois. Ça, c'est ça qui est dit dans Brain Freeze, qui est même pas encore sorti, un film de zombies québécois qui reprend un peu les thèmes de Slither aussi. Tu sais, je pense que j'aime juste pas ça, ce genre d'affaires-là. Tu sais, il y en a qui sont bons, mais je pense que généralement, ça me parle pas beaucoup. Là. Mm-hmm. Fait que, mais tu sais, comme je te dis, je trouve que ce qui est dégueulasse dans Slither fonctionne vraiment bien. C'est toutes les scènes, parce que les limaces rentrent par la bouche, fait que, tu sais, faut comme il se ferait un chemin de force dans ta bouche. Ce qui est très dégueulasse.
Oui, absolument.
Très déplaisant à regarder. Et ça fonctionne. Mais tu sais, je trouve que ça m'a quand même... Puis comme tu dis, éventuellement, quand ça pick up, tu sais, puis là, le village se fait invader, puis tout, là, ça fonctionne. Tu sais, là, ça commence à gonner. Mais les 50 minutes avant ça sont un petit peu plates. Tu sais, t'as le maire qui est comme un perv, là, qui est joué par Clark Gregg ou Greg Henry. Je suis pas capable
Greg de différencier.
Greg Henry. Pas le gars qui est Agent of S.H.I.E.L.D.
Non.
Mais l'autre gars qui ressemble un peu à ça, mais plus vieux.
Exactement.
Mm-hmm.
Non, c'est ça. Ben, tu sais, ça tisse l'affaire pas pire. Tu sais, ça sort bien. Fait que c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça bien, mais c'est... pas pêche octobre. Pas pêche octobre, un vendredi soir, quand tu chilles, là, c'est puis...
Oh, c'est loin d'être le pire choctobre que j'ai regardé. Fait qu'il y a ça.
Puis il est aussi, il est disponible sur Prime. Sur Amazon Prime, si les gens veulent le visionner. Alors, ça va être ça. Je pense que c'est ça pour le moment. C'est comme ça que Slither s'est glissé dans nos vies, dans nos cœurs. Alex, avant qu'on termine cet épisode-ci, on annonce à nouveau quel est le film de la semaine prochaine.
Oui. Bien c'est sûr. Dawn of the Dead de Zack Snyder, comme on a dit. Ça va être une année de trois Zack Snyder.
Ouais. Exactement, oui, oui. Les trois Z. Et qui, bien sûr, c'est ça, qui était écrit par James Gunn. Alors, je ne l'ai pas vu. My God, je pense que je l'ai vu comme quand il est sorti en DVD en 2005-2006. Ça fait un petit bout. Fait que je suis curieux de le revoir, justement, avec Sarah Paulley puis tout ce beau monde-là. Mais en attendant, Alex, les gens ils vont nous voir dans un avenir approché au Festival du cinéma international d'Abitibi-Témiscamingue. Mais en attendant, les gens, ils te trouvent où sur Internet?
Cultmontreal.com. Sur Twitter, je suis Alex Rose, deux petites barres à la fin. Why Does It Exist sur Letterboxd et... sur Instagram. Également, comme je disais la semaine passée, j'ai un essai dans le livre 11 brefs essais sur la beauté, piloté par notre invité de la semaine dernière et ma copine Marie-Lise Hamelin. Ben non, les deux sont la même personne. J'ai dit ça comme si c'était deux personnes. Puis ça sort le 26 octobre. Puis c'est ça, c'est un essai sur mes disques, dans le fond. Yannick, tu peux les voir en ce moment, ils sont derrière moi.
Je les vois, ils sont très beaux.
Mon entrevue avec Denis Villeneuve devrait être en ligne cette semaine, vu que Dune sort vendredi.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, si vous n'êtes pas à Montréal ou vous n'avez pas ramassé la copie papier de Colt, mon entrevue avec Denis Villeneuve devrait être en ligne cette semaine.
Très cool. Pour ma part, vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter, sur Instagram, ainsi que sur Letterboxd, bien sûr, où je parle des films que je regarde et où je fais des dessins. Puis justement, pendant Inktober, je fais un dessin ancré à chaque jour, dont plusieurs sujets des films dont on a parlé à travers l'émission. Et c'est pas mal ça. À chaque vendredi, il y a un nouvel épisode de Trois bières au Trois.com. Cette semaine, notre épisode avec Anaïs Gartin-Lacroix, qui est chroniqueuse à Salut Bonjour et sur Cube Radio. Mais en attendant, chers amis, à la semaine prochaine, mais surtout, on vous invite à aller voir des vues.
Yeah!
Les voyous.